Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Anaëlle Pigeat se font face à notre affiche « Restez vivant » de Michel Houellebecq au Palais de Tokyo, « Le monde à ma fenêtre » Joseph Sudeck au Jeu de Paume. Nous évoquerons aussi plus rapidement le livre « Pictures, s'approprier la photographie, New York 1979-2014 » aux éditions Le Point du Jour. Et puis nous évoquerons aussi une exposition du nouveau musée national de Monaco, Mike Nelson Cloak. Au cours de cette émission, comme chaque soir, désormais vers 21h20, Lucille Comeau nous fera entrer dans son petit salon pour y débattre d'une question liée à l'actualité culturelle. Bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de dispute. Ce soir, des places de cinéma pour Relève, histoire d'une création, un film de Thierry Demézière et Alban Turley qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette émission en nous rendant au Palais de Tokyo. L'on peut découvrir jusqu'à dimanche seulement l'exposition Restez vivant de Michel Houellebecq, dont nous n'avions pu vous parler au moment de son ouverture pour cause de grève à Radio France à ce moment-là. Pas vraiment nécessaire, je pense, quand même, de présenter l'écrivain Michel Houellebecq, dont la sortie des livres constitue toujours un événement. On sait aussi que Michel Houellebecq s'est laissé aller à la chanson ou à l'écriture de chansons. On se souvient aussi de sa présence lors de la Biennale de Lyon en 2007. Le Palais de Tokyo lui a donc confié 2000 mètres carrés de surface d'exposition. Qu'en a-t-il fait? Quelques réponses avec nos critiques.
De présence hostile, matière répétée dans les corps, dans les villes, matière destructible, embryon du néant, potentiel avorté, modalité du vide. La nature sortait de son rêve insipide. Un rêve horizontal. Par le choc répété de nos pas sur les dalles, la nature souffrait sous un soleil rigide. Et nos regards.
Jean-Louis Aubert chante Michel Houellebecq. Le morceau s'appelle Reflet du vide. Est-ce que c'est une façon d'entrer ou de débuter cette exposition au Palais de Tokyo? Allez savoir. Anaëlle Pigeat, on vous suit, vous, dans le Palais de Tokyo.
Et on entre dans le vide, effectivement. J'ai l'impression que cette exposition est une expérience. Alors, à une expérience, il faut apporter une conclusion. Et la conclusion que j'en tire, c'est d'abord, je crois que tout le monde ne peut pas être artiste. Il y a une manière une sorte de sérieux de Michel Houellebecq, je crois, dans cette entreprise. J'ai pas l'impression d'y voir vraiment de cynisme, mais peut-être une sorte d'indifférence, d'une certaine manière. Et au fond, je crois que j'accorde trop d'importance à ce que peut être la recherche en art pour me contenter de cela. C'est pas nouveau que Michel Houellebecq soit fasciné par l'art contemporain. Alors, on peut en faire une sorte de bref historique. Il a fait partie du groupe Perpendiculaire avec Jean-Yves Jouannet, Nicolas Bourriaud et d'autres. Il a un peu écrit sur l'architecture. Évidemment, Jed Martin est le héros de son roman La carte et le territoire. Et c'est un artiste qui prend différents grands artistes très connus comme modèle. Il a fait des poèmes mis en vidéo dont on peut se demander là aussi de quoi ça relève. Et il a beaucoup fait de déclarations sur ce monde de l'art contemporain et sur son association à l'argent. C'est pas non plus nouveau que des expositions lui soient consacrées, en tout cas des fragments d'exposition, puisqu'il avait montré ce qu'il appelle des œuvres dans la Biennale de Lyon de 2007.
Des dioramas.
Voilà, c'était un morceau de décor de cinéma. Il dit lui-même dans la revue Palais que peut-être au fond il n'aurait pas dû le montrer et que c'est pour ça, parce qu'il n'aurait peut-être pas dû le montrer, que là il ne montre que l'extrait du film « La possibilité du Nil ».
Il a montré utilisés les dioramas.
Absolument.
Scène avec Ariel Dombal.
Voilà. Il a montré cet été dans Manifesta à Zurich des IRM de son cerveau que l'on retrouve dans l'exposition.
Bon, son bilan médical d'une façon générale.
On sait qu'il va bien. ce qui est curieux, c'est que lui-même a l'air d'entretenir une certaine distance en même temps avec l'art contemporain, puisque, comme je disais, il dit à Richard Lédier dans le catalogue qu'au fond, il aurait peut-être pas dû, que Combas, il le connaît, mais pas depuis si longtemps.
Oui, parce qu'il a invité, il y a une salle dédiée à Robert Combas.
Il a invité pas mal d'artistes, enfin un certain nombre d'artistes.
Là, il y a une salle entière.
Voilà, il y a une salle entière, dont on peut parler d'ailleurs, pour dire que c'est une chose très bizarre, parce qu'il y a une série d'œuvres de Combas, hommage à Houellebecq, et la reproduction d'une partie de l'atelier de Combas, avec au sol une sorte de capharnaüm pas possible, avec tous ces vinyles, avec mais tout ça est extraordinairement aseptisé. Ça me faisait penser d'ailleurs à un stand de galerie, de la galerie Elie Namad à Frise, il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, qui était la reconstitution d'un collectionneur de l'époque surréaliste qui servait à vendre des œuvres et qui était à la fois assez frappante, parce qu'assez spectaculaire, mais complètement aseptisée. Là, je trouve que l'installation de Combas, avec des fausses torts vénitiens cassés, est très aseptisée aussi. Il y a une invitation faite à Maurice Renoma. Alors moi, j'étais assez amusée de la perspective de voir l'invitation faite à Maurice Renoma, qui est ce styliste des années 70 et 80. C'est assez drôle, les vestes à grands revers et avec des grandes fentes. Mais Maurice Renoma se contente, pour toute intervention, de mettre au mur un papier peint avec des sortes d'escargots un peu marrons, avec une moquette identique et des poufs de la même couleur sur lesquels sont accrochées des photos de nymphettes de Michel Houellebecq. Je trouve ça...
Ils sont pas le sommet de son art photographique.
Moi, je suis restée un peu sur ma faim. Alors, Renoma, il se dit modographe. Il y a en effet toute une recherche photographique. Bon, on n'en voit rien, on n'en sait rien. Ce qui est gênant aussi, c'est que finalement, on n'apprend pas grand-chose. Enfin, on ne sent pas grand-chose de la littérature de Michel Houellebecq. Parce que s'il n'est pas, à mes yeux, vraiment un artiste, en revanche, il est vraiment un écrivain. Et au fond, je lisais dans les papiers annonçant l'exposition et dans les déclarations de Jean Loisy qu'on allait se promener dans un roman, entrer chapitre par chapitre. Ça pouvait être très excitant comme perspective. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être revenir là-dessus aussi, sur cette mode incroyable de mélange entre littérature et art. On a l'impression que l'art a vraiment besoin de s'étendre et d'absorber tout ce qu'il peut, y compris la littérature, pour se nourrir. Mais je trouve que de tout cela, on ne perçoit rien dans l'exposition.
Alors, je reviendrai vers vous, Annel Pijat. Corinne Rondeau, vos sentiments en découvrant cette exposition de Michel Houellebecq au Palais de Tokyo?
Bah écoutez, à peu près la même chose que Canaël. Je pense que cette exposition, elle est faite par un écrivain qui fait de la photographie. Donc effectivement, là, je crois aussi que c'est pas la peine de s'énerver quand, comme le dit Annel, quand on est sérieux avec la pratique de l'art aujourd'hui, je pense que c'est pas la peine non plus d'y passer des heures. Ce qui est évident dans cette exposition, qu'elle est pleine de forçage, comme vient de le dire implicitement Annaël, Combas ici, la musique de Iggy Pop sur le diaporama avec son chien, etc. Cette manière dont, en fait, alors on rentre dans l'exposition avec une grande photographie, on ne sait pas si c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil, il y a marqué sur cette photographie, parce que ça fait partie des sortes de dispositifs photographiques,
c'est réinscription.
Écrits, des inscriptions sur les images, il est temps de faire vos jeu. Et alors là-dessus, vous dites, bon, est-ce qu'on va s'amuser ou est-ce que les jeux sont déjà faits? Et quand on passe derrière la photographie, on rentre dans ce qu'on va appeler un crépuscule. Ce sont des photographies noir et blanc où il y a encore des inscriptions sur certaines, ou ensuite des arrangements qui sont des photographies dans des photographies, souvent avec une colorisation assez criarde l'une par rapport à l'autre. Et donc on rentre en fait ce que moi je trouvais être un mausolée, le mausolée de Michel Houellebecq. Il y a quelque chose d'assez crépusculaire, bon, pour reprendre le mot qui convient assez bien à la scénographie du départ, d'autant qu'il y a une scène, enfin il y a une salle d'installation à la vanité. Là, les bras vous en tombent, puisqu'en fait, c'est une organisation de bouteilles de canettes de Coca-Cola avec un crâne et puis les dates de naissance et de mort de Michel Houellebecq.
Qui meurt en 2037.
Et ouais. La chose étant censée être un objet envoyé par un fan à Michel Houellebecq, un artiste donc, dont Houellebecq aurait perdu les coordonnées. Je me suis presque demandé si c'était pas un canular.
Non,
je crois
mais
que j'aurais préféré ça le soir.
Ça sent le fake. Parce que quand vous êtes face à ça, vous parliez tout à l'heure de cynisme et vous vous interrogiez. Et je crois que c'est vraiment la question de l'exposition. C'est cynique ou ça ne l'est pas? Vous avez parlé aussi d'indifférence, Anaëlle. Et moi, j'aurais dit plutôt c'est le sérieux de l'impuissance qu'il y a dans ce travail. C'est-à-dire qu'il y a une ambition, mais une fausse ambition. Alors, on n'est jamais sûr ça y est ou ça y est pas. Alors, moi, je dirais que, d'une certaine manière, il y a... Je suis quand même un petit peu réticente à l'idée de voir parler de cette photographie. Yasmine Nioussi, la semaine dernière, en parlait en disant, bon, le cadrage, le machin. Effectivement, on peut se poser la question du sens de la photographie, puisqu'il utilise aussi ce médium qui est la photographie, en se disant, bon, il y a quelque chose qui va pas. À la fois parce qu'il utilise deux points de vue, qui sont en fait les points de vue absolument... On peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir un point de vue sur ce qu'il voit. Ça appartient à tout le monde. Mais un artiste, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que si le point de vue du monde qu'il n'aime pas, c'est le monde dévasté par la consommation dans les campagnes, mais aussi l'affaiblissement de l'Europe, etc., etc., avec ses photos cadrées, Europe en béton, ou alors des panneaux dans une église avec une photo couleur, vraiment, qui garde de cierge avec la Vierge Marie, etc. Donc, il a toujours un rapport avec ses inscriptions et ses arrangements d'images et les paysages, parce que c'est ce qu'on a au tout début, il a toujours un rapport très distancié. Il regarde de loin. Et puis, en fait, toute l'exposition semble avoir été organisé autour du clou de l'exposition qui est Clément. Puisque si c'est une exposition qui est un crépuscule, il n'y a presque pas d'idole, mais il y a quand même Clément, son chien. Et là, il fait des photos très près. Donc le point de vue de la photographie chez Houellebecq, ça serait de dire ce que j'aime, c'est près, c'est mon chien, c'est Houellebecq. L'amour est, voilà, un amour décomplexé pour le chien, et le chien étant décomplexé à l'égard de sa propre génitalité, on va dire. Et puis de l'autre, ce que je n'aime pas, eh bien, c'est le point de vue lointain. Je trouve que c'est quand même assez faible si ça doit être un point de vue d'artiste. Et je dirais que c'est là que je me pose la question, je dirais, du sérieux de l'impuissance, ce qu'on peut appeler aussi la masturbation, ou du cynisme. À savoir que lorsqu'on est un écrivain comme il l'est, et là je rejoins ce que vous avez dit, Anaëlle, c'est un écrivain qui compte parmi les écrivains d'aujourd'hui, et c'est un peu notre La Bruyère contemporain. C'est un homme d'un génie de description qui est quand même assez remarquable. Et comment ce type qui est capable de voir des choses et de les écrire n'est pas capable de les mettre en image? Ça pose un vrai problème. Et ça pose un deuxième problème qui est, d'une certaine manière, la négation de sa propre écriture, parce que lorsqu'il extrait un certain nombre de phrases ou de vers et qu'il met sur ses photographies, c'est comme s'il il enlevait, je dirais, la phrase de l'écrivain pour, je dirais, flatter quelque chose de l'image, comme si l'écriture était une manière de relever ou d'aider la photographie, parce que ça manque, tout en jouant le jeu de ce qu'on peut déjà retrouver depuis quand même une trentaine d'années dans la photographie des inscriptions. Enfin, ça n'a pas de nouveauté, ça n'a pas de qualité esthétique.
Ouais. Voilà. Mais à cet égard, le passage sur Clément est très intéressant parce qu'on peut lire et entendre le passage de La possibilité du Nil dans lequel il explique que les chiens sont ces loving machines, c'est-à-dire des machines programmées pour aimer automatiquement leur maître, qui est un passage formidable. Et en fait, on s'aperçoit avec une limpidité parfaite à quel point tout ce qui est autour, les petits jouets du chien, les photos, les aquarelles et même le diaporama avec Iggy Pop sont parfaitement inutiles. Pour revenir à son regard, il y a une chose dont j'aurais été très curieuse, c'est qu'à un moment, dans un des entretiens là aussi de la revue Palais, il raconte que pour écrire, il affiche devant sa table de travail des photographies. Que pour écrire Soumission, il met la photo de la maison de Jean Paulhan dans laquelle habite le narrateur. Il le met la photographie de la mosquée de Paris. Il met toutes sortes de photographies. Et au fond, de Sancier. Et au fond, moi j'aurais été assez intéressée de voir ça et que ça soit de sa part à lui ou de la part des commissaires. faire, on essaye de nous entraîner dans une tentative d'analyse de ce rapport du texte aux images. Et ce que je voulais ajouter également, c'est quelque chose sur la forme de l'exposition. Parce qu'au fond, cette exposition, c'est une chose un peu hybride. Michel Houellebecq a été proche d'artistes de la génération des années 90, disons, qui est une génération qui a énormément exploré le médium exposition. Alors, on peut penser par exemple à la décennie que Stéphanie Moidon avait organisée à Metz l'année dernière, qui était comme ça un grand plateau et qui avait un rapport un peu ambivalent avec ce que pourrait être un décor de cinéma. M'a beaucoup frappé le fait que dans ce qu'on pourrait appeler le générique, en tout cas ce que je ne sais pas appeler autrement que le générique à l'entrée de l'exposition, on s'aperçoit que comme au Grand Palais pour une expo d'art ancien, il y a une scénographe, mais il y a aussi une décoratrice. Une décoratrice dans une exposition, il me semble que c'est un peu bizarre, que c'est plutôt un terme qui relève du champ cinématographique habituellement. Mais on n'a pas l'impression non plus de se promener dans un décor quand on se promène dans l'exposition, parce qu'il y a par exemple un fumoir. Un fumoir, bon, alors c'est provocant peut-être. Bon, Leandro Ehrlich en 2006, si je me trompe pas, a fait une smoking room au Palais de Tokyo dans notre histoire. Il me semble qu'on a déjà un peu vu et que le côté très subversif de cette chose n'est pas évident. Il y a un jukebox avec les poèmes mis en musique par Bertrand Burgala. Bon, là aussi, dans la pièce de Clément, il y a une sorte de couverture à carreaux qui fait aussi du sol et des murs. On se promène dans un décor, on n'est pas dans un décor, on n'est pas vraiment dans une exposition. Je trouve que tout ça est très inachevé, en fait.
Oui, alors que je trouve que ça commence quand même plutôt bien, cette exposition. Je ne l'avais pas vue quand Yasmine aussi s'est énervée contre elle la semaine dernière. J'aurais peut-être un peu tempéré ses propos, parce que moi j'aime plutôt bien la toute première partie, celle des photographies de la série France et celle d'Europe dans cette... Dans ce crépuscule, hein, vous disiez, Corinne Rondeau, très peu éclairé. Là, je trouve que l'éclairage est très réussi, très subtil.
L'homme qui a pensé la lumière est un homme de cinéma. Et je trouve aussi que l'éclairage est une chose qui fonctionne. Et la progression du spectateur, par ses contrastes de lumière, mais c'est une chose un peu cinématographique.
Absolument. Et du coup, voilà, j'étais effectivement assez pris par ce début d'exposition, sauf que ça se gâte quand même terriblement après. Vous avez parlé de la salle de Robert Combas, qui effectivement, voilà, qu'on aime ou pas Robert Combas, une façon très aseptisée, le mot est juste là encore, le fumoir est absolument, tourne en ridicule même l'idée de la subversion, de fumer dans un lieu qui n'est, où on ne doit pas fumer, enfin bon, tout ça est quand même très, très revu. La série Femme est quand même d'une inanité totale, on a parlé des photos, mais il y a un petit film...
La rivière.
Porno lesbien, qui est quand même...
La rivière.
La rivière, qui est quand même pas
la
non
nouvelle
plus...
Nouvelle Jérusalem de Houellebecq.
Ouais,
il
n'y
a que des chiens et des femmes.
Voilà, qui est quand même pas non plus, qui ne va pas rester dans l'histoire du cinéma,
ouais,
a priori. Alors, j'ai bien aimé dans les inscriptions cette... Alors, c'est, on l'a déjà vu, mais cette série de 4 photos inscriptions. Alors, vous parlez de la question de la phrase et des photographies. On a au départ 4 photos alignées sur un mur dans le noir, et puis un projecteur s'allume sur la première, un bout de phrase se dévoile, puis la seconde, puis la troisième, puis la quatrième. On a bien compris que c'était du cinéma, une sorte de proto-cinéma qui était à l'œuvre là. Mais moi, je trouve que ça, voilà, ça fonctionne assez bien. Mais voilà, il y a quand même trop peu de choses réussies, si je puis dire. Parce que alors, la série sur le chien Clément, c'est pas la question de l'amour ou pas des chiens, mais bon, ça concerne qui ? Enfin, on est quand même dans du gadget ou dans... C'est même pas du fétichisme, parce que je trouve qu'on est quand même complètement tenu à l'écart du lien qu'il a avec ce chien. Annelle ?
Non, juste pour conclure, pourtant, Dieu sait que le sujet de ce mélange entre art et littérature est intéressant. Et bah je trouve qu'une réussite vraiment extraordinaire en la matière était dans les mêmes murs, l'exposition de John Giorno l'année dernière.
Ouais, mais elle était faite par Ugo Ordinone,
qui était faite par
Ugo
Ordinone, qui change beaucoup de choses, absolument.
Et avec Ugo Ordinone aussi. Corinne Rondeau, dernier mot sur Rester vivant ou on s'arrête là ?
On peut s'arrêter là. Enfin, moi, j'aurais juste envie de dire que effectivement, c'est la conclusion, moi, de l'exposition, parce qu'elle commence comme elle finit, tout de même, histoire de faire une boucle. On n'avait pas compris. La conclusion, pour moi, c'est l'ennui profond. L'ennui est effectivement l'incomplétude
du projet.
C'est un
thème houellebecquien, l'ennui.
Oui, mais bien sûr. Mais heureusement, je dirais, d'une certaine manière. Parce que pour moi, il n'y a pas de souffle dans l'exposition, parce que justement, le problème... Annaëlle avait lancé le sujet, qui est un sujet sans doute qui devrait être abordé, Hello, Lucille. Mais sur justement la question du langage. Je veux dire, si les arts plastiques trouvent, je veux dire, une limite et un point de butée à l'égard de leur propre langage, on voit bien qu'un écrivain ne rénove pas ou ne donne pas une nouvelle possibilité d'un langage plastique à travers les arts visuels, alors parce qu'il est écrivain. Et je crois qu'effectivement, c'est une exposition qui n'a pas de souffle parce qu'il n'a même pas introduit la question du rythme. Alors que c'est un écrivain qui a quand même aussi du rythme, son rythme à lui, et qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de rythme, y compris dans les vers qu'il met sur une photo, et que ça ne crée pas de rythme entre la photo et l'écriture, il y a un vrai problème. Là, c'est évident qu'on a, on a peut-être que pointe, allez, levons quelque chose de Houellebecq, peut-être pointe-t-il qu'il manque justement une langue, enfin un langage aux arts plastiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut y faire n'importe quoi, y compris de faire des expositions littéraires avec des œuvres qui vont illustrer la littérature.
Restez vivant, Michel Houellebecq est au Palais de Tokyo jusqu'au 11 septembre.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Joseph Sudeck au Jeu de Paume, nous évoquerons aussi le livre Pictures au Point du Jour et l'exposition de Mike Nelson au Nouveau au Musée National de Monaco. Avant tout cela, il est grand temps d'entrer avec Lucille Comeau dans le petit salon. Hello Lucille, comme dirait Corinne Rondeau, il va s'agir ce soir de courage politique.
Et oui, vendredi 19 août dernier, la directrice du musée Guimet Sophie Macariou a été reconduite pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête de cet établissement parisien qui possède une des plus grandes collections d'art asiatique au monde. Quelques jours plus tard, elle a courageusement donné une interview au Monde pour alerter sur les conditions de vie ou plutôt de survie de son musée qu'elle maintient avec énormément d'énergie mais trop peu de moyens. Pas de moyens pour revoir les scénographies qu'elle voudrait, un nombre de personnes dans l'administration totalement indigent, en dehors bien sûr du personnel dédié à la sécurité, là évidemment pas d'économie. Mais sinon, une seule secrétaire, personne pour revoir le site internet qui aurait dû être rénové depuis des années. La situation est telle que Sophie Macariou doute de pouvoir ouvrir un des lieux du musée, l'hôtel d'Heidelberg, consacré au Panthéon bouddhique et qui est fermé pour travaux qui n'avancent pas depuis mars dernier. Le musée Guimet est donc le musée des arts asiatiques et il est fort à parier, Sophie Macariou le laisse entendre dans l'entretien, qu'il souffre d'une concurrence sérieuse, celle de son gros voisin, le musée du Quai Branly, qui trône à quelques encablures et accueille lui aussi des collections asiatiques. Pour se rendre compte de la différence, le musée Guimet reçoit environ 4 millions d'aides de l'État. C'est plus de 10 fois plus pour son gros voisin. En proportion, la différence de fréquentation n'est pas si spectaculaire. Alors l'État a clairement choisi le Quai Branly comme musée des cultures du monde, entre guillemets. Sa domination dans les médias est écrasante, en témoigne l'énorme publicité autour du rebaptême en juillet dernier du musée en musée Chirac et de la visite de ce dernier en grande pompe. Alors comment concurrencer les musées monstres quand on est un musée spécialisé ? Petit détour, mais qui a peut-être quelque chose à dire sur le sujet. Dimanche, à Guimet, c'était l'avant-dernier jour de l'exposition Araki. Araki est un grand photographe japonais. Il a photographié notamment des femmes ligotées selon les rituels érotiques du Kimbaku. Devant une photographie, soudain, une femme s'est installée, vêtue d'un kimono transparent entrouvert, une caméra vissée sur le front. Elle s'est mise à dévorer une demi-pastèque posée entre ses cuisses avant d'être évacuée par le personnel du musée. C'était en fait l'artiste Déborah de Robertis, une vidéaste et performeuse luxembourgeoise qui a déjà fait ce type de performance non autorisée, notamment devant l'Origine du Monde au musée d'Orsay en 2014. Alors la plupart des spectateurs rassemblés au musée l'ont applaudi. Alors qu'elle se faisait vider manu militari par le personnel de sécurité, le fameux personnel qui, je rappelle, n'a pas été réduit. Espérons que la publicité générée par cet événement, ça n'a pas manqué évidemment, on en a parlé partout de 20 minutes à LCI, bénéficie un peu au musée Guimet.
Moi je suis un grand fan de Sophie Macariou, qu'on avait reçue ici comme invitée de la dispute la saison dernière me semble-t-il, c'est elle qui a présidé à la construction, l'élaboration du département des arts de l'islam au musée du Louvre avant d'en partir, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'effectivement elle ne manque pas d'idées, d'envie, de projets, c'est une femme qui aime les arts dans toutes ses disciplines, ce qui est aussi très rare dans ces mondes très compartimentés du monde des arts. Alors oui, enfin, j'avais pas pensé moi à la concurrence du Quai Branly qui est pourtant qui paraît évidente maintenant que vous le pointez, Lucille Comeau. Évidemment, les subventions sont pas les mêmes. Alors c'est bien de nommer quelqu'un qui veut faire beaucoup de choses à la tête d'un musée, ce serait encore mieux qu'il ou elle en ait les moyens, Annaëlle Pigeat.
C'est sûr, ce qu'elle dénonce et qui est effectivement très courageux, je trouve va de pair avec une transformation du paysage des musées, à la fois en termes de fonctionnement et de programmation. Il est évident que les musées crient famine aujourd'hui, c'est pas une chose nouvelle, on le sait, on sait les dangers même que ça leur fait courir, à la fois pour les bâtiments, pour le nombre des salariés. Aussi pour l'accessibilité, puisque le Louvre, par exemple, avait dû réduire à un moment le nombre de jours gratuits les premiers dimanches du mois, je crois, et donc réduire le nombre de visiteurs. Il y a le fait également que les musées doivent de plus en plus s'autofinancer dans des proportions, quand on regarde les chiffres, qui sont absolument croissantes depuis quelques années. Mais ça fait aussi des variations sur la programmation. C'est-à-dire que être directeur d'un musée aujourd'hui, ça nécessite de savoir jongler avec un certain nombre de subtilités, comme le fait de programmer en même temps des expositions qui vont faire de la billetterie, des expositions blockbuster, qui peuvent être trop blockbuster ou qui peuvent être de très bonne qualité, bien qu'attirant beaucoup de visiteurs, pour pouvoir par ailleurs mener des expositions beaucoup plus pointues, dont on sait par avance qu'elles ne vont pas faire venir autant de visiteurs que d'autres. La concomitance, par exemple, au musée d'art moderne de la ville de Paris entre Marquet et Paula Modersohn-Becker l'été dernier était frappante à cet égard. Et pourtant, Paula Modersohn-Becker était pourtant appuyée sur le roman de Marie Desplechin.
Dariussec.
Marie Dariussec.
Rendons à Marie.
Absolument. Il y a aussi une autre conséquence qui fait que certains artistes contemporains, tout simplement, ne sont pas visibles en France. Parce que les valeurs d'assurance sont excessives et donc ça modifie le regard que l'on a sur la scène artistique internationale. Enfin, il y a un autre aspect qui est le rapport que les musées entretiennent avec leurs collections. Évidemment, la conséquence, si on doit faire moins d'expositions, c'est de devoir utiliser davantage les collections. Et on voit, particulièrement au Centre Pompidou récemment, je trouve, fleurir le nombre d'accrochages qui flirtent avec la notion d'exposition, qui repose sur les collections. L'accrochage de Chers Amis, qui était fait exclusivement des dons des amis, comme l'exposition, le titre de l'exposition l'indique, l'été dernier. La donation Westreich-Wagner, qui était accrochée en même temps. Là, une nouvelle exposition donation-accrochage de la collection d'artistes russes va ouvrir ses portes dans quelques jours. Et finalement, c'est un peu troublant que les... Alors, en France, on en a moins l'habitude qu'aux États-Unis, par exemple, mais c'est un peu troublant que les musées soient à ce point dépendants. Et puis enfin, il y a aussi le sujet qui devient une porte ouverte aujourd'hui, mais qui est quand même très important, de la circulation des collections et de ces expositions clés en main, faites à partir des œuvres des musées, comme par exemple ce qui a été fait avec le musée Picasso. Mmh. Quand le musée est fermé, ça va, mais quand le musée est ouvert et que les touristes étrangers viennent voir des œuvres qui ne sont pas là, c'est plus compliqué.
Oui, parce qu'elles circulent en effet beaucoup. Alors, voilà un point très complet d'Annaëlle Pigeat, peut-être moins sur ceci que peut-être sur... Déborah de Robertis, vous aviez déjà
parlé. Écoutez, on sait où est le cœur de son art, hein, entre l'origine du monde et la pastèque. En tout cas, c'est pas mal pour le musée Guimet. C'est dommage, c'était à la fin de l'exposition Araki.
Je suis passé devant dimanche en sortant du palais de Tokyo, il y avait 200 mètres de file d'attente. Hein. Je ne sais pas si c'était au moment du scandale ou pas.
Oui, c'est le complexe de la Joconde volée. Je veux dire, les gens y vont quand il n'y a plus rien. Donc c'est ça qui est formidable. Alors peut-être il faudrait vider tous les musées pour que les gens y aillent. C'est peut-être une solution, finalement. Merci, Lucie, de cette proposition. Parce que pour le petit salon, je trouvais que Déborah de Robertis c'était pas mal, finalement.
Oui, j'attendais
à ce qu'on sorte un peu les fouets et les velours rouges, parce que ça allait avec. Bon, écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire, sauf que je crois qu'il faut avoir aussi la politique à la Jean-Louis Barrault, comme l'évoquait Annaëlle, c'est-à-dire il faisait des films à grand succès pour pouvoir monter des pièces de théâtre d'auteurs, voilà, comme un Paul Claudel. Donc, entre Carnet et Claudel, il y a une différence. Et donc, je crois qu'en fait, la solution, elle est quand même aussi là, d'une certaine manière, pour l'existence de ces musées dont les subventions sont quasi inexistantes, où il faut remplir de l'espace, comme le palais de Tokyo, parce qu'on pourrait parler quand même beaucoup de la programmation qui, depuis un an, s'est s'effondre complètement au Palais de Tokyo. Moi, je l'appelle maintenant pas le Palais de Tokyo, mais la foire fouille. Parce que
on y trouve tout. C'est la Samaritaine,
mais bon. Ouais, mais je crois que c'est ça aussi.
Ouais.
Et donc,
mais on trouve du très bon aussi.
Ouais, mais c'est très rare.
C'est Jean-Michel Albert.
Mais je dirais que aussi ce qui maintient la familiarité à l'art et aussi la manière dont nous retournons au musée et où nous allons au musée, c'est aussi peut-être ce rapport à des expositions qui nous racontent des histoires. Mmh. Le Quai Branly, indépendamment, pour revenir à ce que disait Lucille, indépendamment de la surmédiatisation de ce vaisseau, hein, parce que c'est un bateau énorme qui a été fait, souffre, je dirais aussi, d'une programmation qui est à la fois pointue et très populaire. Le musée Guimet, par essence, ne peut pas se le permettre. C'est vrai que la bouffée d'air que représente le tempérament de feu de Macariou va peut-être justement redorer, je dirais, d'un point de vue médiatique, parce qu'on est quand même dans une société de médiatisation à outrance, va redorer justement une sorte de vitalité, enfin, va revitaliser le musée Guimet, qui est un des musées les plus importants. Vous avez annoncé le nombre de pièces que contient ce musée d'œuvres asiatiques. Donc, je crois que c'est bien aussi de ne pas flatter trop, je dirais, la visibilité pour faire n'importe quoi en termes d'exposition contemporaine. Et là, le Haraki, on aime ou on n'aime pas, mais c'était aussi le lieu pour le faire. Donc ça, c'est très judicieux. Je crois aussi que d'une certaine manière, il faut se permettre de continuer de nous raconter une histoire entre le présent et le passé. Et pour revenir au Palais de Tokyo, parce que c'est aussi aujourd'hui une programmation, parce qu'il y a à la fois le lieu, on parle du lieu, là vous parlez du lieu, d'un lieu par rapport à un autre, et là c'est le Palais de Tokyo, je dirais que on aimait ou on n'aimait pas Marc-Olivier Valère, mais il avait quand même quelque chose, et qu'il nous racontait son histoire du début à la fin. Pendant 4 ans, il nous a fait son roman. Et c'était super intéressant. Je veux dire, qu'on n'aimait pas sa physique quantique ou ses artistes, je trouve que du début à la fin, il nous a tenus dans une période.
Il n'avait pas les mêmes surfaces d'exposition à disposition. Ouais,
bien sûr. Mais il n'avait pas la même surface, c'est ça que vous venez de dire. Oui, parce que je parle en même temps que vous, donc j'en ai même plus que vous.
Il
n'avait
pas les mêmes surfaces d'exposition.
Bien sûr qu'il n'a pas. Mais à un moment donné, il faut quand même avoir la rigueur de savoir, quand on fait rentrer du contemporain, qu'est-ce qu'on raconte par rapport aux collections, et en même temps, je dirais, est-ce qu'on peut pas tirer un fil, vous voyez, un fil de continuité, je dirais, ou alors il faut faire d'autres choix. Mais bon, je veux dire, quand il n'y a pas d'argent, il faut trouver la solution qui soit quand même la moins dégradante, je dirais.
Ouais, voilà. Ce qui me semble être le cas avec Jean de Loisy, parce que c'est sa gourmandise aussi qui en fait le directeur du lieu aujourd'hui, parce que ses surfaces d'exposition, je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés, parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais c'est énorme, donc il faut remplir, il y a quand même une obligation. Il faut aussi attirer du monde, faire de la billetterie, parce que plus les subventions diminuent, plus on a besoin de blockbusters, on fait avec ce qu'on a, on voit ça au Grand Palais. Moi, c'est plutôt le Grand Palais qui m'inquiète davantage que le Palais de Tokyo. Et tiens, j'en profite pour dire que c'est jusqu'au 11 septembre aussi qu'il y a Mika Rothenberg, que je connaissais pas, une artiste argentine, et qu'on peut voir au premier sous-sol du Palais de Tokyo.
Et formidable de Clément Cogitard, voilà. Qui est une nouvelle pièce tournée dans le palais.
J'ai vu aussi, et donc voilà, c'est jusqu'au 11 septembre, donc allez-y aussi pour elle et lui. Vous voulez dire un dernier mot, Anaël Pija ?
Un micro-mot, je profite de ces deux sujets pour faire un hommage aux agents de surveillance des musées dont on a parlé, ceux-là qui sont pas réduits, ou en tout cas, c'est ce qu'on dit. À propos de Déborah de Robertis, il y a sur Internet quelques vidéos totalement chaplinesque et totalement hilarante, dans laquelle on voit les balais de pieds des agents de surveillance qui, tant bien que mal, essayent de se dépatouiller de cette situation quand même assez inconfortable pour eux. Et au fond, je trouve qu'on ne pense pas assez au côté multitâche que représente le fait d'être agent de surveillance, de devoir faire face à l'artiste exhibé qui vient se présenter dans l'exposition,
jeu de pastèque aussi,
à des choses plus sérieuses, plus embêtantes. Enfin bref, voilà.
Big up aux agents de surveillance, Corinne Rondeau.
Non, je dis, comment a-t-elle fait pour rentrer avec une pastèque dans un musée? Alors ça a été ma première question.
Écoutez, vous allez mener l'enquête et vous nous répondrez là-dessus. Pour l'heure, nous refermons les tentures du petit salon. Puisque avant de parler de l'exposition Joseph Sudek au Jeu de Paume, d'autres recommandations de nos critiques, on commence avec un livre, Corinne Rondeau.
Oui, c'est un livre alors absolument formidable qu'il faut acheter. Oui, si on s'intéresse,
respirez, tout va bien.
Au musée, si on s'intéresse à l'art, si on s'intéresse à l'histoire de l'art, alors c'est un livre qu'on doit, enfin qui part aux éditions Le Point du Jour, mais surtout à Gaëtan Thomas. Alors, figurez-vous que ce garçon est doctorant en histoire des sciences à l'École des hautes études en sciences sociales, mais c'est surtout qu'il a découvert ses textes dans des plus grands critiques américaines, la scène new-yorkaise, dans la revue October, qui est quand même marqué les années 70 avec quand même beaucoup de pertinence et d'impertinence. En militant à ACT UP.
Douglas Crimp, on peut...
Donc on peut dire que Douglas Crimp était extrêmement méconnu en France, donc il faut se jeter dans un livre où les textes sont plus ou moins courts, on va dire, ils sont écrits avec une clarté, mais derrière la simplicité, il y a un tranchant à la Foucault, c'est d'ailleurs, il y a une influence de Foucault et de Roland Barthes chez Douglas Crimp. C'est quelqu'un qui a donc... Picture s'approprie la photographie New York 79-2014. Vous avez compris quelle période englobe ces textes, cette sélection de textes de Douglas Crimp, avec une préface très rondement menée par Gaëtan Thomas, qui est très claire et qui apporte en fait un certain nombre de clarifications sur le thème de postmodernisme sur lequel a beaucoup travaillé Douglas Crimp. Si vous n'avez pas encore compris ce que c'était, ou si vous croyez encore savoir ce que c'est, ça vaut le détour de passer par Douglas Crimp. D'autant que c'est autour du mot « picture », c'est-à-dire « photographie », que va se jouer justement ces définitions du postmodernisme. Postmodernisme qu'il faut entendre à travers, je dirais, une phrase manifeste de Douglas Crimp. Derrière chaque image, il y a toujours une autre image. Et donc, c'est le travail, justement, non plus de la conservation des médiums, mais le travail sur les matériaux, qui va constituer à la fois une critique et la crise des musées, qui consiste à dire, finalement, on classe aussi par médium, et en même temps, c'est le médium photographique qui va, d'une certaine manière, mélanger toutes les pratiques qui vont créer une nouvelle génération. Ce sera la Pictures Generation où il y aura Levin, Cindy Sherman, Louise Lawler, par exemple. Et c'est en 77 qu'il fait sa première exposition avec certains de ces artistes-là. Robert Longo, notamment, Sherry Levin, Philip Smith. Donc, à la fois, c'est une grande clarté parce qu'il impose finalement un rapport entre le modernisme et la modernité à travers une distance infranchissable avec l'original, finalement. Il travaille donc de l'image à l'image. Et là, il a une très grande clarté d'expression, une très grande clarté de démonstration, mais ça ne va pas jusqu'à, je dirais, que des objets d'art, dans la mesure où ce critique-là, 79-2014, on y voit ce qui manque dans l'horizon des critiques, c'est-à-dire une sensibilité. C'est pas l'individu, quand il va commencer à militer à ACT UP après l'explosion de l'épidémie du sida aux États-Unis, et je veux juste vous citer ce qu'on avait peut-être oublié, il y a des choses que moi je n'avais pas oubliées, et qui ont été quand même d'une violence extrême, la conséquence logique des tests et la quarantaine des malades, disait Jesse Helms, le fameux Jesse Helms, qui a constitué les culture wars, les guerres culturelles, et qui avait interdit l'exposition Mapplethorpe, qui avait dégradé, qui avait permis le conservatisme et les critiques les plus réac d'affirmer leur position, qui avait notamment diminué les subventions. Donc des choses absolument improbable, et cette phrase, notamment d'un chroniqueur à l'époque, quiconque est dépisté avec le sida devrait être tatoué sur l'avant-bras pour prévenir les usagers de seringues et sur les fesses pour prévenir les autres homosexuels. Donc, au-delà de ça, de cette violence, il y a des textes, notamment, portraits de personnes vivant avec le sida qui sont une description, mais simple, considérable à travers, évidemment, la représentation par la télévision. Et ça va jusqu'à un texte formidable sur Cindy Sherman et une critique d'une exposition qui s'appelait en 2006-2007 New York la nuit, où il dit à la fois son rapport à New York. Je veux dire, c'est une sensibilité, c'est une humanité qui traverse tout le livre. Et c'est bien écrit, c'est super bien traduit, on va dire. Et je revendique d'aller tout de suite à Image douloureuse, où on aura une belle image de Mapplethorpe, qui est un fist-fucking, et qui m'a fait hurler de rire, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu absolument parler de ce livre.
Pictures, s'approprier la photographie de Douglas Crimp, cette édition Le Point du jour. Alors peut-être plus rapidement, Naël Pijat pourra évoquer une exposition de Mike Nelson au Nouveau Musée National de Monaco. Non, c'est parce qu'on a Joseph Sudek au programme et c'est quand même pas rien.
Plus rapidement, Annaëlle. Et puis plus légèrement aussi, parce que je vous rapporte un souvenir de vacances pour faire
très
comme
bien.
Si c'était un peu l'été encore, un souvenir bleu.
C'est l'été, techniquement.
Il fait chaud. Avant de partir, cet été, j'avais vu un mail passer annonçant une exposition de Mike Nelson à Monaco. Je savais que j'allais être pas très loin. J'ai eu un mal fou à retrouver les informations. Alors, du coup, ce côté furtif m'a assez séduite d'emblée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller à Monaco, donc pour voir une exposition dans les
premiers. Je n'y vais pas au Le Grand Prix.
Dans les premiers jours d'août, vers le 5 ou le 6, c'est proche de l'enfer comme situation. Bon, alors on trouve une place dans un parking.
J'avais dit plus rapide, hein, ça commence bien.
On prend un ascenseur qui vous conduit dans une première partie du nouveau musée national de Monaco, dirigé par Marie-Claude Beau et à l'excellente programmation. Et je pensais marcher encore un quart d'heure pour atteindre le siège de la banque UBS, avenue de Grande-Bretagne, ce que je trouvais en soi assez poétique comme situation.
C'est pour vos comptes offshore ?
À peu près. Mais en fait, il m'a suffi de prendre un ascenseur au bout d'un long couloir. Je suis donc arrivée devant cet immeuble 1900, ne montrant aucun signe extérieur indiquant la présence d'une exposition, la présence d'un artiste. Il y a une sorte de cour anglaise dans laquelle on descend. Et là, on est accueilli par un médiateur ou une médiatrice qui vous fait rentrer dans le siège abandonné de cette banque qui va être restaurée et qui va faire l'objet de travaux et réouvrir bientôt. On rentre comme ça par le sous-sol et pendant un quart d'heure, on monte absolument seul, en tout cas j'étais absolument seule. Le médiateur joue formidablement son rôle parce qu'il est totalement invisible, il passe par des pièces, on ne sait pas. En tout cas, l'intégralité de l'espace est recouvert d'un bleu outre-mer qui est aussi un bleu de lapis-lazuli. C'est totalement féerique. Mike Nelson, qui est donc cet artiste anglais qui a été nominé plusieurs fois au Turner Prize et qui a représenté l'Angleterre à Venise en 2011, excusez-moi.
Bon, on y arrive.
C'est pas grave,
en tout cas, c'est un artiste
anglais. En tout cas, Mike Nelson a vraiment retravaillé l'espace en le recouvrant de bleu, en faisant des sortes de lampes sous coupe volante dans le ciel, dans le plafond, qui donnent l'impression d'un ciel. On voit des plantes bleues, on voit des imprimantes abandonnées. On a vraiment l'impression d'un voyage onirique extrêmement poétique. Évidemment, voyage dans le temps, dans l'espace, dans la vie du travail, etc. Et on arrive enfin, sur la terrasse, sur le toit, dans le bleu de la mer Méditerranée, on nous parle de lapis-lazuli et de Cennino Cennini. Alors, Baxandale en a parlé aussi pour la peinture de d'Uccello et la bataille de San Romano. Je ne sais pas si c'est nécessaire vraiment de faire ces références, mais en tout cas, il est certain que quand on se promène dans ce lieu, on a une vision poétique et un vide et un sas de méditation extrêmement plaisant.
Mike Nelson, dans ce projet hors les murs du nouveau musée national de Monaco, c'est seulement jusqu'au 16 septembre, vous voulez rajouter ?
Et c'est Cristiano Raimondi, le commissaire.
Ben, il fallait le dire.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute le mercredi soir, art plastique. On se rend au Jeu de Paume à Paris pour découvrir une exposition qui a fait l'objet d'un coup de cœur de Corinne Rondeau avant l'été. Donc on a eu envie d'y aller. Vous vous rappelez plus ?
Non.
Ah bon, ben c'est heureusement que j'ai mes archives. L'exposition, elle est consacrée au photographe tchèque Josef Sudek sous le titre « Le monde à ma fenêtre ». On va être concis, mais là, quand même, une trentaine de minutes. Allez, une douzaine pour que vous soyez plus rassurés. Corinne Rondeau, vous avez une thèse, m'avez-vous
oui,
dit
j'ai
à l'instant,
thèse.
Pendant que je jouais du violon.
Non, c'est une exposition formidable. Enfin, formidable parce que je trouve que les premières photographies, qui sont des photographies d'arbres, pour moi, ont été les premières photographies, sont des photographies d'arbres isolées dans une campagne. À la fois, c'est un printemps parce qu'il y a des feuilles aux arbres, c'est des photos en noir et blanc, donc il faut deviner un peu les saisons. Et en même temps, elles sont sur un champ dépouillé avec de l'eau, donc il a plu, c'est sans doute l'hiver. Et je dois dire que ce regard qu'on pose sur ces photos vous met dans une atmosphère de solitude extrême. Alors, c'est pas une solitude malheureuse, c'est au
contraire, je trouve que là, il nous donne une bouffée d'air, Sudeck, malgré ses premières photographies pictorialistes. Elle nous donne le sens du temps et du regard. Et alors là, ça, c'est formidable, parce que l'exposition, je dirais que je n'ai même pas regardé la scénographie, comment elle est faite. Je me suis arrêtée sur cet artiste qui, en fait, travaille en série, donc on regarde les séries. Il travaille en série parce que je crois qu'il regarde aussi la question de ce qui est proche de nous. C'est un photographe de la frugalité, dans la mesure où c'est à la fois la solitude dans les paysages. On verra que c'est un homme sans idéal, sans même, je dirais, illusion. Lorsqu'on regarde ces panoramas de qui sont de Prague vers le théâtre national de Prague, ou que ce soit le bord de l'Elbe, on voit toujours que ce sont des fleuves qui traversent l'image, ou des grands rebords de ponts. Ouais, et donc en fait, il n'y a pas d'horizon. C'est une photographie sans horizon. Et je crois que c'est le sens de ce sans horizon qui fait une photographie sans illusion. Il n'y a pas d'illusion. La photographie est ce que j'ai à saisir avec ce que j'ai au plus près de moi. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi de l'existence qui se joue, je dirais, dans la singularité de cet homme qui découvre la photo en 1911, qui perd un bras à la guerre de 14-18, qui ne sera pas relieur parce qu'il dira qu'il aurait été mauvais relieur. Mais sans doute, il a aussi le goût des papiers, car on voit tout le travail des textures lisses, rugueuses qu'il va utiliser, mais aussi des collages très surprenants qu'il fait. Et on voit que c'est sans illusion. Ces paysages, cette solitude extrême qui donne une atmosphère d'un corps à l'arrêt qui regarde, et dans le film qui est proposé, Vivre sa vie, on le voit avec son gros appareil, son objectif, et il ferme un œil, il regarde la lumière, et on se dit, ben voilà un photographe qui vise la lumière. Il ne vise pas le cadre, puisqu'il est à l'extérieur de la boîte, donc il va soulever ensuite l'objectif pour imprimer sa plaque. Et donc, on a ce sentiment que ce type regarde la lumière avec la finesse la plus grande, et on le voit, et je parlais de frugalité, parce que dans ses compositions, puisque l'exposition est organisée autour de paysages, on va dire, puis ensuite de vue la nuit à Prague, et ensuite...
Pendant l'occupation nazie, parce qu'on n'avait pas le droit d'éclairer quoi que ce soit. Oui, et puis de son jardin, il pouvait quand même avoir des vues sur Prague.
En fait, c'est le 23 septembre 1938, à l'imminence de l'invasion de l'armée allemande, il y a la première occultation à Prague. C'est-à-dire, les gens vont s'enfermer. Et à partir de ce moment-là, la nuit va rentrer dans son travail. On le voit dès 40, et les travaux sur la nuit vont jusqu'à 54. Et ensuite, il a un travail sur le jardin enchanté, le promenade dans le jardin. Et en fait, c'est l'homme de l'intériorité, c'est l'homme qui va se poser la question du dehors et du dedans, mais de sa propre intériorité, c'est-à-dire il est juste à l'intérieur de son atelier ou dans le jardin à photographier la fenêtre par laquelle il a photographié son jardin. Et cette vitre qui est le passage de l'extérieur à l'intérieur, c'est aussi une vitre embuée, c'est-à-dire qu'on n'y voit pas au-delà. Et c'est ça qui est très fort chez lui, c'est que quand on n'y voit pas au-delà et qu'on ne peut voir que ce qui est proche de nous, ce qui nous reste à faire, c'est des petites compositions qu'on pourrait trouver bien à vivre dans l'exposition, mais à un moment donné, vous avez une feuille dans un verre d'eau, et quand vous voyez une larme de lumière tomber sur la table, parce que simplement la lumière a accroché la pointe de la feuille, mais ça se voit que sur le reflet, mais c'est absolument admirable. Donc je trouve que c'est le peintre du sans horizon, mais c'est celui qui vous dit, une chaise peut être là, mais personne ne vous attend, il n'y a rien à attendre, il y a juste à regarder.
Je reviens vers vous, Corinne, parce que vous en parlez fort bien de Joseph Sudeck. Vous l'avez dit, alors c'est vrai que je vous ai un peu interrompu, mais ces natures, ces paysages, ces arbres, parce que le paysage, c'est peut-être le monde à ma fenêtre, c'est ça aussi, beaucoup de photographies de l'atelier vers le jardin ou du jardin vers l'atelier, vous l'avez dit. C'est très, très émouvant d'ailleurs de voir un tronc d'arbre comme un être humain, parce qu'on voit ces formes caractérisant chaque tronc différent et qu'on peut voir à différentes saisons à travers cette pluie qui tombe, et puis donc cette série de nuits, des séries concernant des natures mortes, et puis des séries aux mannequins fracassés, un peu plus loin. Annaëlle Pigeat.
Oui, les arbres, c'est vrai que l'exposition est formidable, les arbres cassés qui ont perdu une branche, comme il a perdu un bras, enfin tout ça est absolument bouleversant. Il y a une chose qui m'a frappée, donc l'exposition n'est pas chronologique, on voit les ensembles, et sont rejetés tout à la fin de l'exposition l'ensemble de travaux de commande qu'il a réalisés, notamment d'objets de Suttner, qui sont quand même assez connus dans son travail et qui sont là complètement mis à l'écart. Et ce geste est le signe, à mon avis, de ce que les commissaires de l'exposition ont voulu donner, l'image d'un Sudax extraordinairement intimiste, comme vous l'avez très bien dit, et extrêmement attachant. En fait, c'est un personnage dont on a l'impression qu'il est extrêmement paradoxal, parce que donc, il est relieur, il devient photographe, il est d'abord photographe amateur, puis il devient professionnel, d'accord. Il dit qu'il est un pauvre homme qui vit seul. En fait, il reçoit dans son atelier la terre entière et toute la scène artistique pragoise. Il est ami à la fois avec Funke, avec le peintre photographe, avec le peintre Émile Fila. Il est extrêmement passionné de musique et il passe à ses invités des disques d'une grande collection qu'il a. On voit aussi dans son travail qu'il n'est pas du tout l'ignorant qu'il joue un peu le rôle qu'il joue un peu. En fait, il a l'œil extrêmement avisé de toute la modernité. On a parlé de pictorialisme, mais aussi de fonctionnalisme, et jusqu'aux années 60. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir à quel point les images, notamment la série depuis ma fenêtre, sont tardives, puisqu'elles commencent à partir de la guerre et qu'elles durent jusqu'aux années 60. Ce qui est assez drôle aussi dans ces contradictions, c'est qu'il joue le personnage très ascétique, qui fait des repas avec un oignon et un peu de pâté de porc. D'ailleurs, c'est les papiers des pâtés de porc qu'il garde et qu'il entasse sur son bureau pour faire ces natures meurtres extraordinaires dont on peut absolument pas soupçonner que c'est des vieux papiers gras, mais on a l'impression de fleurs, de cerisiers, vraiment d'une poésie folle. Donc il joue l'ascétisme et la frugalité, alors qu'en fait c'est un bon vivant qui aime la vie et qui est très drôle. Il y a une série de lettres qu'on peut voir dans l'exposition, dans un passage qui m'a fait beaucoup rire, où il parle du livre qui va être édité sur les panoramas. Il s'adresse aux fabricants du livre en disant « Dites-leur que le format, s'ils souhaitent, qu'il soit utilisé pour le livre des saucisses, les saucisses c'est les panoramas, c'est comme un homme portant un col de chemise trop petit, s'ils ne sont pas d'accord, il n'a rien que l'on puisse faire. » C'est-à-dire qu'il joue les poètes comme ça, mais en fait il est aussi extrêmement déterminé et il a un point de vue extrêmement précis sur ce qu'il a à faire dans son œuvre. Donc voilà, toutes ces contradictions. Il y a aussi le fait que on a l'impression d'un bricolage un peu crado presque, alors qu'en fait sa maîtrise technique est extrême puisqu'il pratique d'abord les oléobromies, mais assez vite. Et puis il y a une chose importante aussi, c'est qu'il ne travaille que par épreuve par tirage avec des épreuves contact, c'est-à-dire que c'est le négatif qui détermine le format de la photo et c'est le sujet qui détermine aussi le format qu'il va utiliser. À partir de ce moment-là, enfin à partir d'un certain moment, il utilise aussi des tirages pigmentaires qui impliquent parfois le décollement de la gélatine et donc l'inversion de l'image. Ça donne à ces photos une picturalité extrême, un jeu avec le flou et le net qui est absolument émerveillant. Et il joue avec ces montages de papier dont on se dit à un moment qu'ils sont, et quelqu'un le dit dans le catalogue, qu'ils sont inspirés par les reliquaires de la cathédrale Saint-Guy. On peut penser aux agates dans lesquelles Apollinaire se reflète dans Zone. Il y a quelque chose de très précieux et de très savant dans ce travail qui est aussi extrêmement poétique.
Émerveillant, je retiens quand même cet adjectif. J'étais content d'avoir pas oublié mes lunettes, parce qu'il faut préciser que la plupart des formats sont extrêmement petits et qu'il faut vraiment ne pas hésiter. Et puis on a envie d'aller très très près de ces images pour en voir les moindres détails. Et puis tout à la fin, on ne l'a pas encore signalé, quatre ou six images en couleur, dont une absolument sublimissime. Mais alors vraiment, il faut pas hésiter à se coller tout près de l'image.
Ah, c'est curieux, j'ai pas du tout le souvenir de petits formats, vous voyez.
Ce sont vraiment des tout petits formats.
Non, j'ai vraiment j'ai vraiment des formats dans ma tête qui sont plutôt pas petits, mais non pas petits. Voilà.
Bon, ils le sont.
Non. Non, mais ça, la couleur, je suis pas sûre qu'il aurait fait grand chose.
Non, mais il y en a que 4 ou 6, je sais plus, mais.
Oui, je crois qu'il y en a 4.
Il y en a une qui est très très réussie.
Celle avec le rideau, peut-être, je ne sais pas.
Ça, celle-là.
Peu importe, mais. Non, j'ai rien à dire. Non, mais c'est vrai, le paradoxe. Non, le paradoxe est flagrant sur les lettres, et vous les avez citées, qui sont à tordre de rire, effectivement, ou même lorsque sa mère meurt. C'est quelqu'un qui, en fait, il fait des fautes. Il écrit avec des fautes d'orthographe. Et lorsque sa mère meurt, il remercie la dame qui s'est occupée de sa mère. Et évidemment, il n'y a aucune faute d'orthographe. Et d'ailleurs, quand on le voit dans le film Vivre sa vie, là encore, on voit bien qu'il est habillé à la diable, qu'on n'aurait pas du tout envie de lui dire bonjour en se disant ce type est.
Un film très réalisé, hein, très mis en scène.
Oui, hein. Oui,
c'est
trop,
tout petit,
d'ailleurs.
Ça dure 12-13 minutes. Mais on est content de le voir. Quelques petites phrases à peine, vraiment, qui nous font croire à une vie effectivement extrêmement tempétueuse, comme les images qu'il fait par sa fenêtre.
On voit dans ce film une sorte de gourmandise de l'existence dans son regard, dans la manière dont il tourne comme un chat autour de ses sujets, autour de ses objets. Et au fond, le fait, je pense, d'avoir perdu un bras à la guerre est quelque chose d'extrêmement marquant dans son travail. Il y a quelque chose d'un peu casse-cou aussi, parce qu'on n'a pas parlé des extraordinaires photos, des échafaudages de la restauration de Saint-Guy à Prague, mais il faut imaginer...
Oui, il y en a que deux en même temps.
Oui, il y en a deux, mais elles sont particulièrement formidables.
Elles sont au début de l'exposition.
Il faut imaginer le gars avec un bras en moins qui grimpe sur les échafaudages, qui porte son énorme chambre, parce qu'il travaille avec une énorme chambre.
Et encore, il n'a pas de pastèque.
Il n'a pas de pastèque, lui, mais par contre, il s'est construit un sac qu'il tire avec les dents pour fermer autour de lui et pour avoir du noir autour de lui. Donc on a l'impression d'un exploit permanent qui aboutit à des petits miracles chaque fois.
Pas mieux ?
Non, mais je trouve que pour les compositions, c'est vraiment quelqu'un qui montre qu'il utilise sa main. Pas ses mains, mais ça, après tout, que un ou deux, une suffit. Non, à moins de monter sur des échafaudages, bien sûr.
Quand on a le talent de Joseph Sudeck. Vous avez évoqué le catalogue, et je suis en train de chercher qui l'a édité pour pouvoir le signaler à nos auditrices, auditeurs.
Mais quand même,
ça comme information, le temps qu'on cherche ça. Merci Anaëlle. Oui, Corinne
Rondeau. Mais je trouve que c'est aussi notre contemporain, dans la mesure où dès 40, il joue la frontière du dedans et du dehors. Là-dessus, je crois qu'il faut pas s'interdire d'aller voir du Sudeck, parce que ça serait vieillot. Parce que c'est vraiment toute la gamme du pictorialisme à la nouvelle objective. On pourrait dire, en passant par le surréalisme, dont il est, Anaël l'a dit, il est très informé. Et d'ailleurs, il participe aux deux plus grandes expositions des années 30, 33 et 36, l'une à Londres et l'autre à Prague, d'ailleurs, avec Man Ray, mais aussi Kertész, Rodchenko, Hartfield, Raoul Haussmann.
Alors, j'ai fait travailler Anaël Pigeat, alors je vous laisse le soin de nous dire qui édite. Alors, j'ai pas dit qui était les commissaires non plus.
C'est une coédition du Jeu de Paume et de l'Institut canadien de la photographie du Musée des Beaux-Arts du Canada, qui est à Ottawa. Mais en fait, c'est l'occasion de dire que l'immense donation qui a eu lieu et qui occasionne cette exposition était, j'ai l'impression, aussi l'occasion d'une sorte de relecture de son œuvre et d'un retravail. L'œuvre ayant déjà été beaucoup analysé par Anna Farova à l'époque de Sudeck, qui l'a bien connu. On recommence aujourd'hui. Enfin, on continue en tout cas.
On continue. Joseph Sudeck, Le Monde à ma fenêtre, c'est jusqu'au 25 septembre au Jeu de Paume à Paris. Et puis donc ce catalogue aussi à l'occasion de cette exposition. Et on conclut comme chaque soir avec le jeu de la dispute, en commençant, Lucille Comeau, par un rappel du jeu d'hier soir pour en connaître la réponse.
La question était, la dernière émission Une vie, une œuvre de France Culture samedi était consacrée à Léo Ferré. Léo Ferré qui avait rencontré à la radio Brassens et Brel en 69, une émission mythique. Sur quelle antenne avait-elle eu lieu? Et la réponse était Radio-Télé Luxembourg.
C'était pour les grosses têtes. À gagner ce soir des places de cinéma pour Relève, histoire d'une création, un film de Thierry Demézières et Alban Turley qui est sorti aujourd'hui en salle. Quelle est la question?
Alors le film est un documentaire sur le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied. Son premier spectacle en tant que chorégraphe s'appelait Triple Duet. Quelle en était la musique?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anaëlle Pigeat, Corinne Rondeau, Lucille Comeau, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sur franceculture.fr à la page de la dispute. Dispute possible grâce à Lucille Comeau, Daniel Finot, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Eric Boisset, réalisation Daniel Finot. Je vous retrouve demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Marie Audroux et Emmanuel Giuliani. À notre affiche, retour sur les festivals de l'été à Aix-en-Provence. Nous parlerons du triomphe du temps et de la désillusion de Handel. Mise en scène par Christophe Warlikowski, dirigé par Emmanuel Haïm. Nous évoquerons deux cosy, celui mis en scène par Christophe Honoré à Aix et celui mis en scène par Sven-Erik Bechtolf à Salzbourg. Et nous parlerons de la création de l'opéra Thomas Hadès, l'ange exterminateur à Salzbourg également. Et puis au programme aussi le dernier CD d'Anna Netrebko, Verismo. Ça c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, les discussions du soir, dans quelques instants, le journal de la rédaction.